Allons, il y a remède à tout. Quand on a pour bonne amie une flamande de Rome. Commence par mettre ce mouchoir sur ta tête et jette-moi ce ceinturon. Attends-moi dans cette allée, je reviens dans 2 minutes. Elle disparut et me rapporta bientôt une mante rayée qu'elle était allée chercher je ne sais où. Elle me fit quitter mon uniforme et mettre la mante par-dessus ma chemise. Ainsi accoutrée, avec le mouchoir dont elle avait bandé la plaie que j'avais à la tête, je ressemblais assez à un paysan valencien, comme il y en a à Séville, qui viennent vendre leur orgeat de chufa. Puis elle me mena dans une maison assez semblable à celle de Dorothée, au fond d'une petite ruelle. Elle et une autre bohémienne me lavèrent, me pansèrent mieux que ne put le faire un chirurgien-major, me firent boire je ne sais quoi, enfin on me mit sur un matelas et je m'endormis. Probablement ces femmes avaient mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes dont elles ont le secret, car je ne m'éveillais que fort tard le lendemain. J'avais un grand mal de tête et un peu de fièvre. Il fallut quelque temps pour que le souvenir me revînt de la terrible scène où j'avais pris part la veille. Après avoir pansé ma plaie, Carmen et son amie, accroupies toutes les deux sur les talons auprès de mon matelas, échangèrent quelques mots en chipeucali, qui paraissait être une consultation médicale. Puis, toutes les deux m'assurèrent que je serais guérie avant peu, mais qu'il fallait quitter Séville le plus tôt possible, car si l'on m'y attrapait, j'y serais fusillée sans rémission. « Mon garçon, me dit Carmen, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus ni riz, ni merluche, il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à Pastezas. Mais tu es leste et fort. Si tu as du cœur, va-t'en à la côte et fais-toi contrebandier. Ne t'ai-je pas promis de te faire pendre? Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais t'y prendre, tu vivras comme un prince, aussi longtemps que les minons et les gardes-côtes ne te mettront pas la main sur le collet. » Ce fut de cette façon engageante que cette diable de fille me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait, la seule à vrai dire qui me resta, maintenant que j'avais encouru la peine de mort. Vous le dirai-je, monsieur, elle me détermina sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais à elle plus intimement par cette vie de hasard et de rébellion. Désormais, je crus m'assurer son amour. J'avais entendu souvent parler de quelques contrebandiers qui parcouraient l'Andalousie montés sur un bon cheval, l'espingole au poing, leur maîtresse en croupe. Je me voyais déjà trottant par Mont et par Vaux avec la gentille bohémienne derrière moi. Quand je lui parlais de cela, elle riait à se tenir les côtés et me disait qu'il n'y a rien de si beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque rhum se retire avec sa romie sous sa petite tente formée de 3 cerceaux, avec une couverture par-dessus. « Si je te tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je serai sûre de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. » « Ah, tu es jaloux, répondait-elle. « Tant pis pour toi. Comment es-tu assez bête pour cela? Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ?» Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. Pour le faire court, monsieur, Carmen me procura un habit bourgeois avec lequel je sortis de Séville sans être reconnue. J'allais à Jerez avec une lettre de Pastia pour un marchand d'anisette chez qui se réunissaient des contrebandiers. On me présenta à ces gens-là, dont le chef surnommé le Dankaïr me reçut dans sa troupe. Nous partîmes pour Gossin, où je retrouvai Carmen, qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens, et de meilleur il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar, et déjà elle avait arrangé avec un patron de navire l'embarquement de marchandises anglaises que nous devions recevoir sur la côte. Nous allâmes les attendre près d'Estepona, puis nous en cachâmes une partie dans la montagne. Chargés du reste, nous nous rendîmes à Ronda. Carmen nous y avait précédé. Ce fut elle encore qui nous indiqua le moment où nous entrerions en ville. Ce premier voyage et quelques autres après furent heureux. La vie de contrebandier me plaisait mieux que la vie de soldat. Je faisais des cadeaux à Carmen. J'avais de l'argent et une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car comme disent les bohémiens, Gall avec plaisir ne démange pas. Partout nous étions bien reçus. Mes compagnons me traitaient bien, et même me témoignaient de la considération. La raison, c'était que j'avais tué un homme. Et parmi eux, il y en avait qui n'avaient pas un pareil exploit sur la conscience. Mais ce qui me touchait davantage dans ma nouvelle vie, c'est que je voyais souvent Carmen. Elle me montrait plus d'amitié que jamais. Cependant, devant les camarades, elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse. Et même, elle m'avait fait jurer par toutes sortes de serments de ne rien leur dire sur son compte. J'étais si faible devant cette créature que j'obéissais à tous ses caprices. D'ailleurs, C'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme. J'étais assez simple pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée de ses façons d'autrefois. Notre troupe, qui se composait de 8 ou 10 hommes, ne se réunissait guère que dans les moments décisifs, et d'ordinaire nous étions dispersés 2 à 2, 3 à 3, dans les villes et les villages. Chacun de nous prétendait avoir un métier. Celui-ci était chaudronnier, celui-là maquignon, moi j'étais marchand de mercerie. Mais je ne me montrais guère dans les gros endroits, à cause de ma mauvaise affaire de Séville. Un jour, ou plutôt une nuit, notre rendez-vous était au bas de Végé. Le Dankaïr et moi, nous nous y trouvâmes avant les autres. Il paraissait fort gai. « Nous allons avoir un camarade de plus, me dit-il. Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Elle vient de faire échapper son rhum qui était au Presidio à Tarifa. » Je commençais déjà à comprendre le bohémien, que parlaient presque tous mes camarades. Et ce mot de rhum me causa un saisissement. « Comment ? Son mari ? Elle est donc mariée ? » demandai-je au capitaine. « Oui, répondit-il, à Garcia le Borgne, un bohémien aussi futé qu'elle. Le pauvre garçon était aux galères. Carmen a si bien embobeliné le chirurgien du Presidio qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. Ah, cette fille-là vaut son pesant d'or. Il y a 2 ans qu'elle cherche à le faire évader. Rien n'a réussi, jusqu'à ce qu'on s'est avisé de changer le major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a trouvé bien vite le moyen de s'entendre. Vous vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle. Je vis bientôt Garcia le Borgne. C'était bien le plus vilain monstre que la bohème ait nourri, noir de peau et plus noir d'âme. C'était le plus franc scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Carmen vint avec lui. Et lorsqu'elle l'appelait son rhum devant moi, il fallait voir les yeux qu'elle me faisait. Et ses grimaces quand Garcia tournait la tête. J'étais indignée, et je ne lui parlais pas de la nuit. Le matin, nous avions fait nos ballots, et nous étions déjà en route quand nous nous aperçûmes qu'une 12aine de cavaliers étaient à nos trousses. Les fanfarons andalous, qui ne parlaient que de tout massacrer, firent aussitôt piteuse mine. Ce fut un sauve-qui-peut général. Le Dankaïr, Garcia, un joli garçon d'Essija, qui s'appelait le Remendado, et Carmen ne perdirent pas la tête. Le reste avait abandonné les mulets, et s'était jeté dans les ravins où les chevaux ne pouvaient les suivre. Nous ne pouvions conserver nos bêtes, et nous nous hâtâmes de défaire le meilleur de notre butin et de le charger sur nos épaules. Puis nous essayâmes de nous sauver au travers des rochers, par les pentes les plus roides. Nous jetions nos ballots devant nous, et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Pendant ce temps-là, l'ennemi nous canardait. C'était la première fois que j'entendais siffler les balles, et cela ne me fit pas grand-chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite à se moquer de la mort. Nous nous échappâmes, excepté le pauvre Remendado, qui reçut un coup de feu dans les reins. Je jetai mon paquet et j'essayai de le prendre. « Imbécile !» me cria Garcia. « Qu'avons-nous à faire d'une charogne ? Achève-le et ne perds pas les bas de coton. Jette-le ! Jette-le !» me criait Carmen. La fatigue m'obligea de le déposer un moment à l'abri d'un rocher. Garcia s'avança et lui lâcha son espingole dans la tête. « Bien habile qui le reconnaîtrait maintenant, » dit-il en regardant sa figure que 12 balles avaient mise en morceaux. « Voilà, monsieur, la belle vie que j'ai menée. » Le soir, nous nous trouvâmes dans un hallier, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets. Que fit cet infernal Garcia ? Il tira un paquet de cartes de sa poche et se mit à jouer avec le Dankaïr à la lueur d'un feu qu'ils allumèrent. Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché, regardant les étoiles, pensant au Remendado, et me disant que j'aimerais autant être à sa place. Carmen était accroupie près de moi, et de temps en temps elle faisait un roulement de castagnettes en chantonnant. Puis, s'approchant comme pour me parler à l'oreille, elle m'embrassa. Presque malgré moi, 2 ou 3 fois. « Tu es le diable, » lui disais-je. « Oui, » me répondait-elle. Après quelques heures de repos, elle s'en fut à Gossin, et le lendemain matin, un petit chevrier vint nous porter du pain. Nous demeurâmes là tout le jour, et la nuit nous nous rapprochâmes de Gossin. Nous attendions des nouvelles de Carmen. Rien ne venait. Au jour, nous voyions un muletier qui menait une femme bien habillée, avec un parasol et une petite fille qui paraissait sa domestique. Garcia nous dit « Voilà 2 mules et 2 femmes que Saint-Nicolas nous envoie. J'aimerais mieux 4 mules. N'importe, j'en fais mon affaire. » Il prit son espingole et descendit vers le sentier en se cachant dans les broussailles. Nous le suivions, le Dankaïr et moi, à peu de distance. Quand nous fûmes à portée, nous nous montrâmes et nous criâmes au muletier de s'arrêter. La femme, en nous voyant, au lieu de s'effrayer, et notre toilette aurait suffi pour cela, fait un grand éclat de rire. « Ah, les Lilipendies, qui me prennent pour une Éranie !» C'était Carmen, mais si bien déguisée que je ne l'aurais pas reconnue, parlant une autre langue. Elle sauta en bas de sa mule et causa quelque temps à voix basse avec le Dancaïr et Garcia. Puis elle me dit « Canary, nous nous reverrons avant que tu sois pendu. Je vais à Gibraltar pour les affaires d'Égypte. Vous entendrez bientôt parler de moi. » Nous nous séparâmes après qu'elle nous eut indiqué un lieu où nous pourrions trouver un abri pour quelques jours. Cette fille était la providence de notre troupe. Nous reçûmes bientôt quelque argent qu'elle nous envoya, et un avis qui valait mieux pour nous. C'était que tel jour partiraient 2000 hors anglais, allant de Gibraltar à Grenade, par tel chemin. À bon entendeur, salut. Ils avaient de belles et bonnes guinées. Garcia voulait les tuer, mais le Dancaïr et moi, nous nous y opposâmes. Nous ne leur prîmes que l'argent et les montres, outre les chemises dont nous avions grand besoin. Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête, on se bat pour elle, un malheur arrive, il faut vivre à la montagne, et de contrebandier, on devient voleur avant d'avoir réfléchi. Nous jugeâmes qu'il ne faisait pas bon pour nous dans les environs de Gibraltar après l'affaire des Milord, et nous nous enfonçâmes dans la Sierra de Ronda. Vous m'avez parlé de José Maria ? Tenez, c'est là que j'ai fait connaissance avec lui. Il menait sa maîtresse dans ses expéditions. C'était une jolie fille, sage, modeste, de bonne manière. Jamais un mot malhonnête, et un dévouement. En revanche, il la rendait bien malheureuse. Il était toujours à courir après toutes les filles. Il la malmenait, puis quelquefois il s'avisait de faire le jaloux. Une fois, il lui donna un coup de couteau. Eh bien, elle ne l'en aimait que davantage. Les femmes sont ainsi faites, les Andalouses surtout. Celle-là était fière de la cicatrice qu'elle avait au bras, et la montrait comme la plus belle chose du monde. Et puis José Maria, par-dessus le marché, était le plus mauvais camarade. Dans une expédition que nous fîmes, il s'arrangea si bien que tout le profit lui en demeura, à nous les coups et l'embarras de l'affaire. Mais je reprends mon histoire. Nous n'entendions plus parler de Carmen. Le Dancaïr dit « Il faut qu'un de nous aille à Gibraltar pour en avoir des nouvelles. Elle doit avoir préparé quelque affaire. J'irai bien, mais je suis trop connu à Gibraltar. » Le Borgne dit « Moi aussi on m'y connaît. J'y ai fait tant de farces aux écrevisses et comme je n'ai qu'un œil, je suis difficile à déguiser. Il faut donc que j'y aille, dis-je à mon tour, enchanté à la seule idée de revoir Carmen. Voyons, que faut-il faire ?» Les autres me dirent « Fais tant que de t'embarquer ou de passer par Saint-Roch, comme tu aimeras le mieux, et lorsque tu seras à Gibraltar, demande sur le port où demeure une marchande de chocolat qui s'appelle la Rolona. Quand tu l'auras trouvée, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas. » Il fut convenu que nous partirions tous les trois pour la Sierra de Gossin, que j'y laisserais mes deux compagnons et que je me rendrais à Gibraltar comme un marchand de fruits. À Ronda, un homme qui était à nous m'avait procuré un passeport. À Gossin, on me donna un âne. Je le chargeai d'oranges et de melons, et je me mis en route. Arrivé à Gibraltar, je trouvai qu'on y connaissait bien la Rolona, mais elle était morte ou elle était allée à Finibus Terrae, et sa disparition expliquait à mon avis comment nous avions perdu notre moyen de correspondre avec Carmen. Je mis mon âne dans une écurie et prenant mes oranges, j'allais par la ville comme pour les vendre. Mais, en effet, pour voir si je ne rencontrerais pas quelques figures de connaissance. Il y a là force canailles de tous les pays du monde, et c'est la tour de Babel, car on ne saurait faire 10 pas dans une rue sans entendre parler autant de langues. Je voyais bien des gens d'Égypte, mais je n'osais guère m'y fier. Je les tâtais, et ils me tâtaient. Nous devinions bien que nous étions des coquins. L'important est de savoir si nous étions de la même bande. Après 2 jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Rolona, ni Carmen. Et je pensais à retourner auprès de mes camarades après avoir fait quelques emplettes, lorsqu'en me promenant dans une rue, au coucher du soleil, j'entendis une voix de femme d'une fenêtre qui me dit « Marchand d'oranges !» Je lève la tête et je vois un balcon Carmen, accoudé avec un officier en rouge, épaulette d'or, cheveux frisés, tournure d'un gros milord. Pour elle, elle était habillée superbement, un châle sur ses épaules, un peigne d'or, tout en soie, et la bonne pièce, toujours la même, riait à se tenir les côtés. L'anglais, en baragouinant l'espagnol, me cria de monter, que madame voulait des oranges. Et Carmen me dit en basque, « Monte, et ne t'étonne de rien. » Rien en effet ne devait m'étonner de sa part.